Bon, c'est une bonne journée aujourd'hui aussi pour parler un peu de communion. Je ne sais pas s'il y a eu un retour du congrès dimanche dernier. Si, il y a eu quelque chose de fait, parce que du coup, moi, je n'étais pas là. J'étais à Tours. Alors, on était plusieurs au congrès de Tours, évidemment, mais moi, particulièrement dimanche dernier, avec ma famille, on était donc à l'église de Tours, qui vous passe ses salutations. Voilà, donc vous avez les salutations de l'église baptiste de Tours. Et c'est un bon moment, je trouve, ce temps de Pentecôte pour élargir un petit peu la vision qu'on a de l'Église. Parce que dans la Bible, par exemple, on voit qu'il y a l'Église de Colosse, il y a l'Église de Corinthe, il y a l'Église de Rome. Voilà, il y a tout un tas d'églises comme ça qui nous sont présentées. Et on voit aussi que ces églises sont en relation les unes avec les autres. Par exemple, il y a eu une collecte qui a été faite en faveur de l'église de Jérusalem par les autres églises pour soutenir cette église. Et donc, c'est un moyen de se rappeler qu'effectivement, on est à la fois pleinement église, nous ici, et puis en même temps, il y a du monde autour de nous, il y a d'autres églises autour de nous. Il n'y a pas que nous qui avons l'Esprit Saint. Non, il y en a d'autres. Et donc le congrès de Tours, le congrès d'une façon générale, c'est une manière aussi de se rappeler ça, de vivre cette réalité-là, qu'il y a d'autres églises un peu partout. Et notamment, il y a d'autres églises baptistes aussi autour de nous, là, assez proches, dans la région. Est-ce que vous savez quelles églises sont dans notre région? Est-ce qu'il y en a qui sont capables d'en citer quelques-unes? Ou est-ce qu'il y a d'autres églises baptistes en Rhône-Alpes-Auvergne? En Rhône-Alpes. Grenoble, Lyon, Annecy, Albertville, on n'a pas. Clermont-Ferrand, il y a, ouais. Saint-Étienne, oui. Le Puy-en-Velay aussi. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Non, hein, je pense que elles y sont toutes. Ben, bravo, c'est super. C'est bien d'avoir conscience de ça. Et donc aujourd'hui, on accueille José Diaz, qui est pasteur à l'église d'Annecy, qui est venu avec son épouse Caroline. Donc, bienvenue à vous. On est heureux de vous avoir parmi nous. Et je m'en réjouis aussi parce que aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et le message qu'on a à transmettre, c'est un message immuable. C'est toujours le même. Il n'a pas changé depuis 2000 ans. Mais la manière de le transmettre, des fois, ça fait du bien de l'entendre autrement aussi. Et moi, je suis assez fatigué de m'entendre moi-même parler de la Pentecôte. Donc, je suis ravi qu'il y ait quelqu'un pour en parler à ma place et pour apporter non pas une parole nouvelle, mais une manière nouvelle d'apporter la parole. Voilà. Donc, bienvenue, José, si tu veux venir. Et puis, je vais prier pour toi. Et si tu as envie de dire quelques mots aussi sur vous, sur votre église, eh bien, tu n'hésites pas, évidemment. Seigneur, merci beaucoup pour la venue de José et Caroline parmi nous. Merci pour la communion qui existe non seulement entre nous, mais aussi plus largement entre nos églises, entre les églises de la Fédération Baptiste. On est heureux de pouvoir vivre quelque chose de cette communion aujourd'hui par leur venue. Je te prie, Seigneur, que ce temps soit un temps béni pour notre assemblée, un temps qui nous fasse du bien par cette manière nouvelle d'apporter la parole. Et puis, que ce soit aussi un temps béni pour José et Caroline, qu'ils puissent se sentir ici pleinement accueillis, en famille, heureux d'être parmi nous, et qu'ils puissent repartir avec plus d'énergie qu'ils n'avaient quand ils sont arrivés. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.
Merci à vous de m'accueillir au milieu de vous. C'est l'occasion pour moi de pouvoir vous servir. Je ne suis rien d'autre qu'un serviteur parmi d'autres. Et c'est avec un grand plaisir que je vous transmets aussi les salutations de notre église d'Annecy. On n'est pas très loin, mais on ne se voit pas si souvent que ça, finalement. Mais donc, on est toujours pris par Mons et par Vaux. Et puis, on est heureux de pouvoir se retrouver de temps en temps. Et donc, c'est l'occasion pour moi ce matin de pouvoir vous adresser cette parole. Vous avez compris que depuis tout le début, depuis plus de 2000 ans, c'est toujours la même histoire. C'est une histoire d'amour. Et moi, je suis été étonné. Vous avez prié 50 ans de mariage. Waouh, Bon anniversaire, c'est extraordinaire. Il y en a d'autres qui ont plus de 50 ans de mariage ou moins, non ? Ah oui, voilà, extraordinaire de voir. C'est toujours une histoire d'amour. Et la Bible, c'est une histoire d'amour également. Et la Pentecôte, c'est une histoire d'amour. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait également. J'ai mis volontairement, j'ai changé le PowerPoint hier parce que je suis tombé sur cette autre fresque de la Pentecôte. Qui est une fresque d'un artiste lyonnais qui, de temps en temps, je commente des tableaux pour débuter mes messages. Je ne vais pas commenter le tableau dans son intégralité, je vous rassure. Mais c'est une fresque qui est visible depuis hier à Lyon, dans l'église Saint-Jacques, dans le 8e arrondissement. Et le peintre a voulu décrire toute la diversité des origines qui sont... Et on aperçoit les apôtres donc, qui sont ici d'Afrique, du Maghreb, d'Asie, etc. C'est un groupe apostolique d'aujourd'hui. C'est un peu l'idée qu'a voulu transmettre aussi le peintre. Et donc tous les personnages qui sont peints, ce sont des membres de la paroisse. Vous voyez, donc c'est extraordinaire de pouvoir dire, tiens, c'est pour actualiser le message de la Pentecôte. Dire que c'est nous les missionnaires d'aujourd'hui et de demain. Et nous nous sommes appelés à entrer dans cette continuité aussi. Et c'est pour ça que ça m'a touché, cette démarche missionnaire, comme il dit, pour le peintre, qui l'image aujourd'hui un rôle déterminant à jouer dans l'évangélisation. Et l'image, dit-il, est une sorte de catéchisme immédiat. Et il en est convaincu. Et il dit, elle vient de l'Écriture et elle renvoie à l'Écriture. Elle vient de la Bible et elle renvoie à la Bible. Et tout ça, c'est ce que nous sommes invités aussi à découvrir. Alors, si vous avez l'occasion de passer par Lyon, n'hésitez pas à aller visiter cette église Saint-Jacques. Il y a une autre église à Saint-Nizier, dans le centre de Lyon, qui a aussi un autre parcours de la croix, aussi peint par le même artiste. Et vous avez tout le parcours de la croix, tous les tableaux, avec les contemporains aussi. Hein, donc vous verrez, ça, c'est assez intéressant de découvrir tout cela. Mais ça, voilà. En ce jour de Pentecôte, puisqu'il est question de la Pentecôte, nous célébrons la venue de l'Esprit-Saint. Et j'aimerais souligner, moi, l'importance de notre attachement. Je parlais d'amour parce que c'est l'attachement. Comment est-ce que moi, je m'attache à Dieu? Comment lui s'est attaché à nous? Il a donné son Fils et il nous invite, nous aussi, à notre tour, à nous attacher à lui. C'est toute une histoire d'amour, finalement, aussi, entre Jésus et ses disciples. Et c'est cela que j'aimerais souligner j'aimerais revenir sur les textes bibliques où Jésus, peu avant sa mort, donc certains ont déjà été lus tout à l'heure, merci Samuel pour le texte, mais il est dit, en tout cas, en ce temps-là, en Jean 15, versets 9 à 17, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Et il invite ses disciples à demeurer dans son amour. Et il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et il dit ceci, est-ce que ça fonctionne ? Non ? Si tu peux mettre le slide suivant, ça n'a pas l'air de... Où est-ce qu'il faut que je vise ? C'est bon ? Vous êtes mes amis, voilà, merci. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Merci pour le PowerPoint. Et je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et Jésus sait que son temps est proche. Hein. Et son désir, c'est de renforcer cette relation qu'il a avec ses disciples. Et il leur dit, vous êtes mes amis. L'ami aime en tout temps. que le bien-aimé soit présent ou absent. Hein, vous savez, votre époux, votre épouse n'est pas là, l'amour demeure. Inversement. Et c'est cela que le Seigneur veut nous sensibiliser. C'est à cela qu'il veut nous sensibiliser ce matin aussi, dire voilà, il est là, vous êtes mes amis, je vous aime, et moi je vais vous envoyer quelque chose de nouveau. Dans cet élan d'amour, nous voyons le Seigneur dans Jean 21, aussi, après sa résurrection, qui apparaît de nouveau à ses disciples. Vous voyez ce dernier chapitre de Jean qui est très intéressant, je ne vais pas le commenter, mais il interroge l'apôtre Pierre, qui certainement avait été fort déçu, lui-même, d'avoir trahi le Christ. Et il est là, il est dans, dans sa déception, et peut-être je dis ça parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est là, et qui dit, moi j'ai trahi le Seigneur, parce qu'il y a toutes sortes de façons de trahir, hein, j'ai désobéi, je n'ai pas suivi, etc. Et le Seigneur s'approche de Pierre, et lui, Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre lui dit, mais bien, tu sais bien que je t'aime. Mais il est tellement désolé, Pierre, qu'il est confondu. Et il est pris dans cet élan, et le Christ est ressuscité, Pierre le sait, et son désir, c'est d'être à nouveau réconcilié. C'est toujours une histoire de réconciliation. Et il veut avoir la certitude que Jésus l'aime encore. Saint Augustin commentait ce texte, et il dit le Seigneur Christ était ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité Pierre grâce à l'amour que celui-ci lui portait. Qu'est-ce que Pierre apportait au Christ du fait qu'il aimait le Christ ? Si le Christ t'aime, c'est profit pour toi, non pour le Christ. Si tu aimes le Christ, c'est encore profit pour toi, non pour lui. Cependant, le Seigneur Christ, voulant nous montrer comment les hommes doivent prouver qu'ils l'aiment, nous le révèle clairement en aimant ses brebis. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Je t'aime. Sois le pasteur ou le berger de mes brebis. Le Seigneur ne lui demande rien d'autre que de l'aimer. Il ne lui confie rien d'autre que ses brebis. Aimons-nous donc les uns les autres, et ainsi nous aimerons le Christ. C'est comme ça que saint Augustin commente cela. Je trouve ça très intéressant. Et on veut pouvoir s'approprier aussi cette pensée de saint Augustin pour nous. C'est une parole de Dieu qui dit, qui nous rappelle que nous sommes invités à l'aimer également. Ce qui unit les disciples au Christ, c'est l'amour qu'ils lui portent, et inversement. Et en cela, Jésus prépare ses disciples pour son départ physique, comme je disais tout à l'heure, ou qui a été rappelé ce matin, qui surviendra à l'ascension. Et c'est comme ça que commence le livre des Actes, où Luc nous rapporte le récit du départ physique de Jésus. Et cette préparation est accompagnée d'une promesse que Jésus leur donne et qu'il fait. Et ils recevront le Consolateur. C'était le Paraclet. Dit le Consolateur. Moi, j'aime bien cette expression parce que qui va me consoler, moi, de l'absence de celui qui s'en va ? Eh bien, le Saint-Esprit. L'Esprit que je vais vous envoyer, il est le Consolateur. C'est lui qui vous fera connaître toutes choses. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous fera connaître les choses que vous n'êtes pas en capacité encore de comprendre. Et encore, il y a plein de choses encore que nous ne sommes pas en capacité de comprendre. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là, qui vient en aide pour moi, pour me dire, Seigneur, aide-moi à comprendre aussi ces choses-là. Parce que le Seigneur dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Donc quand nous parlons, quand nous annonçons l'évangile, nous ne disons pas les choses que nous avons apprises par cœur, nous disons ce que lui nous a enseigné. Et nous transmettons cette parole, et c'est ça l'amour du prochain. Nous sommes appelés à transmettre cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qu'il nous aime, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous. C'est ça le message de l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'appel que nous sommes appelés aussi à transmettre à ceux et celles qui nous entourent, le message de cet amour. Alors, tout à l'heure, il dit bien sûr, quand l'Esprit Saint se manifeste, il y a parfois des manifestations, on parle de guérison, de puissance, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez vivre dans l'amour du Christ. Parce que le miracle ou la guérison, c'est un lien de cause à effet. C'est parce que vous aimez, que vous débordez de cet amour, que cet amour va toucher votre prochain et qu'il sera touché par cet amour de Dieu qui va au point de le guérir. C'est ça, la guérison. Le secret, il est là. C'est tout lié à cet attachement que je mets avec le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur, il dit, hein, tout ce que le Père est à moi, tout ce qu'a le Père est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera, aussi dans le texte. Et ainsi, le jour de la Pentecôte, parce qu'ils ont entendu ces promesses du Seigneur, les disciples sont réunis dans la chambre haute, ou le cénacle, pour ceux qui préfèrent. Mais conformément à ce que le Seigneur leur avait demandé ainsi, dans un esprit d'obéissance, une attitude d'obéissance, et ils attendaient patiemment en prière ce que Jésus leur avait promis. Je ne sais pas si nous, on est dans cette dynamique-là, en tout cas, d'être dans cette disposition bienveillante, pour reprendre une expression d'Ignace de Loyola, il dit, dans ses exercices, dans son prélude, il dit, il faut avoir une disposition bienveillante à accueillir, à entrer dans la présence du Seigneur et entrer dans l'Esprit Saint, dans la communion avec l'Esprit Saint également. Et il dit ceci, acte 1 et 8, je l'ai lu tout à l'heure, et oui, d'accord, merci de faire passer. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, c'est l'ascension. Et tous d'un même cœur étaient assidus, nous dit le texte au verset 14 plus loin, ils étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, ils étaient environ 120 qui étaient réunis. Les disciples étaient dans cette attente bienveillante et confiante dans la promesse que le Seigneur leur avait faite, qu'il leur avait promis, c'est une promesse. Avaient-ils des raisons de s'inquiéter ? Bien qu'ils ignoraient la procédure, parce que Jésus n'a pas dit comment ça allait se passer, vous voyez ? Moi, je dis, comment ça va venir, ça, cette histoire-là de Saint-Esprit. Bien sûr qu'on pourrait avoir des raisons de s'inquiéter, mais il n'avait pas raison de s'inquiéter parce qu'il savait qui était le Seigneur. Il savait qui était Jésus. Et pour nous, on doit être dans cette même attitude, attitude de confiance et assidue à la prière. Je ne dois pas avoir peur du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que j'aurais des raisons d'avoir peur ? Puisque c'est le Seigneur, c'est un cadeau du Seigneur qu'il désire nous faire, qu'il nous a fait aussi. Alors, il n'avait aucune raison de s'inquiéter, et Luc nous rappelle, hein, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve. Et donc, il dit, si vous, donc vous, méchants comme vous êtes, vous savez de donner du pain à vos enfants, quand il demande, est-ce que le Seigneur ne lui donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande, hein ? Pouvez-vous imaginer la réaction des adorateurs juifs, alors à ce moment-là, le jour de la Pentecôte, qui sortent du temple après l'office du matin, et ayant entendu, encore tout frais dans leur tête, ce texte des Écritures qui est lu dans la Shavuot, à la Pentecôte juive, on lit le texte d'Ézéchiel. Il y a deux textes qui sont lus, en l'occurrence celui d'Ézéchiel au début, puis à la fin, on termine aussi avec celui du récit de Ruth. Mais le texte d'Ézéchiel, donc voici un extrait. Je regardais, et voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour une clarté, un éclat étincelant sortant du milieu d'elle. Et tout à coup, tous entendent un bruit comme celui d'un souffle violent et voient des langues de feu, les mêmes manifestations, la même gloire, la Shekinah, que celle que leurs ancêtres avaient vue lorsque la loi fut donnée, eh bien, se produit également à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit vient. La loi a été donnée, hein, on commémore le don de la loi aussi à la Pentecôte, dans la tradition juive aussi. Et donc, imaginez-vous un instant, les disciples ont compris tout de suite. Ils n'ont pas douté de ce qui se passait. Si nous, ça arrivait pour nous aujourd'hui, cette même scène, comme la représentation que je vous avais montrée ce matin, quelle serait notre réaction? Certains diraient que c'est un débordement. Peut-être. Ça ne rentre pas dans le cadre. Donc ça déborde du cadre établi. D'autres diraient que c'est émotionnel, ou d'autres encore pourraient dire que c'est démoniaque. J'ai entendu ce genre de choses. Oui. Mais certains changeraient d'église pour une autre, plus calme et ordonnée. Peut-être, je ne sais pas. Ce sont des hypothèses que j'émets ici. Mais au milieu de toutes ces controverses, d'autres enfin se demanderaient s'ils sont devenus fous. Parce que c'est ce qui ressort du texte après. Mais ils sont ivres, d'autres qui sont, ils sont fadas. Hein, c'est des illuminés. C'est vrai, ils ont été illuminés par l'Esprit Saint. Mais ils sont devenus fous à cause de cette langue incompréhensible qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes, qui sortait de leur bouche. Et les 120 se sont réjouis et ont accueilli le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'avaient pas de conception erronée à son sujet. David Terry nous rapportait, il ne l'avait pas encore mis dans une boîte théologique et donc on n'avait pas peur. Parce que souvent, c'est notre enseignement qui nous enferme et qui nous empêche de rentrer dans la dynamique aussi divine et aussi diverse soit-elle. Les disciples remplis du Saint-Esprit annoncent la bonne nouvelle du salut et pourtant, bien que Jésus ne soit plus présent physiquement, les disciples ne sont plus les mêmes. C'est dingue. Ils ont changé comme ça. Mais je vais vous dire pourquoi, il y a un changement radical, parce qu'ils ont reconnu l'Esprit de Jésus. Ils ont reconnu celui qui les aime. Ils savent que c'est lui. Tout d'un coup, ils savent que voilà, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est celui qui me permet d'aller plus loin encore avec lui. Et ils comprennent toujours, et bien sûr, cette parole, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais non seulement cela, mais le Seigneur leur avait dit aussi, avec cet esprit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi j'ai faites. Comment il faisait? Avec l'esprit. Et il dit, mais c'est comme si vous donnez un bagage ou quelque chose à quelqu'un, à vos enfants, et dire avec ça, t'iras loin, mon fils, ma fille. Et c'est la même chose. Il dit, avec l'Esprit Saint, quand il viendra, vous ferez les œuvres, vous serez en capacité de faire ce que je fais, et vous ferez encore des plus grandes œuvres, parce que ça va se prolonger, ça va continuer aussi dans la vie de chacun, et ça va se poursuivre, et ça se poursuit encore aujourd'hui. Amen, alléluia. Amen. Ouh. Amen. Donc, avec le Saint-Esprit, ils sont en capacité de comprendre ce qu'ils n'étaient pas en mesure de comprendre auparavant. Et c'est cela qui est important pour nous. Le Seigneur les conduit dehors dans toute la vérité. Et ils vont comprendre. Et tous les récits, ils vont écrire l'Évangile, ils vont rapporter tous les textes que nous avons aujourd'hui. Et le Seigneur les conduit dehors dans tout, avec le discernement, la sagesse, mais aussi avec la puissance, comme je disais tout à l'heure, qui s'accompagne. Et donc, aujourd'hui, l'Esprit est toujours là. Pour glorifier Jésus, bien sûr. En nous annonçant ce qui est à lui, toutes ses richesses et sa gloire, toute la diversité, tout ce qui est appartient au Seigneur. Et donc, voilà pourquoi nous devons le glorifier en recevant et en gardant cette révélation de l'Esprit-Saint. Nous sommes appelés à perpétuer et à continuer. Nous devrions montrer autant d'attachement à l'Esprit-Saint qu'au Seigneur Jésus-Christ. Ça a été rappelé ce matin, Samuel l'a dit. Puisque c'est l'Esprit de Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Est-ce qu'on en est convaincu? Vous êtes d'accord avec ça? Ben, laissez-moi vous dire un truc. Une étude récente de Lifeway Research aux États-Unis a révélé que 56% des chrétiens évangéliques croient que le Saint-Esprit est une force plutôt qu'une personne. 56%, la moitié de cette salle pense que, un peu plus, que c'est une force plus qu'une personne. C'est dingue. Assurément, il y a une force, une puissance, qui sait, mais c'est la puissance de Dieu, mais c'est la personne du Christ qui est incarné. Francis Chan a écrit que le Saint-Esprit, c'est le Dieu oublié. Il y a son livre qu'il a écrit comme ça, le Dieu oublié. Et un autre auteur écrit qu'il est le Dieu déformé, parce que nous n'avons pas une vision juste de qui il est. Et donc, l'histoire est complexe. Hein. Par définition, l'Esprit-Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. Hein, c'était fixé au Concile de Constantinople, en 381. Mais ça, c'est l'histoire. Mais pourquoi ? Peut-on dire pour autant qu'elle est une personne vivante parmi nous ? Certes, nous ne pouvons que l'admettre avec les yeux de la foi, parce que je ne le vois pas, mais puisque tout se joue dans l'invisible de notre être, de notre intériorité aussi. Cependant, l'Esprit-Saint, il est vivant en nous parce qu'il guide nos pensées, nos paroles, nos actions, et cela nous dépasse. Et la Bible nous révèle que le Saint-Esprit est une personne qui nous enseigne, nous rappelle les enseignements de Jésus, nous parle, nous convainc. Vous voyez, c'est différent d'une force, tout ça. Il dit, nous conduit, nous guide, nous envoie, nous aide, intercède pour nous. Je prends les textes bibliques, je ne vais pas tous les citer, mais il nous donne la capacité de marcher avec Dieu. Et il fait en sorte que nous puissions connaître la justice, la paix et la joie du royaume de Dieu. Dieu qui est amour désire que nous acceptions d'être guidés par son esprit. Il nous veut parfaits parce que l'amour demeure essentiel dans nos vies. Et nous sommes la perfection, je parle de la sanctification hein, dans ce domaine-là ici. Une parole de Paul nous dit en Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Vous direz peut-être, en quoi ouais, j'ai attristé le Saint-Esprit, je n'ai rien fait. Mais peut-être vous avez déjà la réponse. Je n'ai rien fait. J'ai attristé le Saint-Esprit. Si je n'obéis pas à ce qu'il fait. Aucune mauvaise parole ne doit sortir de notre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une bonne parole constructive, profitable à ceux qui nous écoutent. Hein, je cite aussi le parole. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de la délivrance. Alors, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. C'est Paul qui dit cela aux Éphésiens. Soyez entre vous plein de générosité, de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Andrew Murray s'exprime ainsi. En vous, en toi, Dieu a créé le cœur de l'homme pour sa demeure. Le royaume de Dieu est en vous, il est en nous. Et c'est à l'intérieur que nous devons rechercher l'accomplissement de la nouvelle alliance. L'esprit du Christ lui-même doit être en nous en tant que puissance de notre vie. Voilà, alors se réveiller chaque matin, je ne sais pas comment vous êtes réveillé ce matin, en retard, peut-être mince, c'est l'heure d'aller au culte. Se réveiller chaque matin à la lumière de ses vérités, c'est cela. Seigneur, je te bénis pour la parole que tu m'as accordée. Je te remercie pour la lumière du jour que tu me permets de voir aujourd'hui. Je te remercie parce que c'est le jour de la Pentecôte et que je vais vivre une aventure extraordinaire avec toi aussi. Amen. On peut être toutes sortes de prières pour être faites aussi. Mais notre communion avec le Seigneur est d'autant plus grande ou proportionnelle que nous manifestions notre affection pour lui et pour son esprit. Aussi. C'est proportionnel. Plus j'aime le Seigneur, plus j'ai besoin de cette présence du Seigneur. Saint-Esprit, viens. Viens dans ma vie. J'ai besoin de plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. C'est rien que ça, de dire. Disons, Seigneur, je veux plus. Et donc, pour moi, la question, il ne s'agit pas de savoir combien je possède de l'Esprit-Saint. Quelle quantité de l'Esprit-Saint je possède. Il s'agit plutôt de combien lui me possède. Quelle est la partie de mon être, hein, le dimanche dernier je parlais sur ça, mais quelles sont les parties de notre être où il a le droit de séjour? Il doit être dans toute notre intériorité. Il doit gérer toutes les choses de ma vie. Le Seigneur, l'Esprit aussi. Donc pour moi, le Romains 8, Paul dira, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus de la mort donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour être rempli ? Pas heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? On pense à la chanson. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être rempli ? Je pense que par leur question, les disciples prouvent combien ils sont incapables à ce moment de supporter les enseignements de leur maître, hein, quand on a vu dans les textes récits. Mais aujourd'hui, l'Esprit est là et qui glorifie Jésus en nous annonçant ce qui est à lui. Quant à nous, si nous sommes un tant soit peu capables de comprendre, glorifions-le en recevant et en gardant cette révélation. Ce que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, ah ben ça y est, ça fonctionne maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je vais essayer d'avancer parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, voilà. C'est ça, le Saint-Esprit. Vous captez combien ? Et je ne vais pas développer ça parce que l'heure avance, mais comment je suis réceptif à l'Esprit-Saint ? Une barre, trois barres, quatre, cinq. 5G, on parle de 5G maintenant, aujourd'hui, 6 même maintenant. Mais pour moi, c'est ça. On a tous nos appareils téléphoniques, on capte plus ou moins bien. Je n'ai pas une bonne communication, là. Mais le Seigneur nous demande de... C'est mon problème, le capteur vient de l'intérieur du téléphone. C'est mon matériel qui n'est pas top. Mais le Seigneur nous demande d'être optimisé pour lui, et optimiser, c'est aussi d'avoir un bon capteur qui capte pleinement le signal que le Seigneur nous adresse. Et bien sûr, cela ne rentre pas toujours forcément dans le cadre, comme je le disais. Et parfois, c'est dans le cadre théologique et dans nos façons de faire. Et je vous raconte juste un témoignage, je prends le temps, je suis désolé, je vais dépasser un peu. Il y a 3-4 ans, à Annecy, une femme vient me trouver à la fin du culte. Alors nous avons normalement des frères et sœurs qui prient pour les gens. Et elle vient me dire, c'est une néo-zélandaise, elle parle anglais, elle vient me dire, pasteur, j'aimerais que vous priez pour moi. Je dis, mais vous savez, vous avez des frères et sœurs qui peuvent prier pour vous. Je dis, non, je veux que vous priez pour moi. Et je dis, expliquez-moi. Et elle me dit, elle était assez engagée dans une ONG en Israël, souvent, elle allait très souvent, donc elle était de passage, comme d'habitude, dans l'église. Et elle me dit, je suis bloquée du dos depuis 3-4 semaines et je n'ai même pas pu aider les frères et sœurs en Israël dans les vendanges. Je suis complètement bloquée, il faut que vous priez pour moi, pour que ça se débloque cette situation. Et là, vous dites, ok, je vais prier pour vous. Donc j'ai demandé à un frère et une sœur de venir, parce que c'est une sœur qui est là, et de venir prier avec moi. Et on commence à prier. Et à ce moment-là, quand on commence à prier, j'ai une pensée qui me traverse l'esprit. Fais-la danser. Vous voyez, ça sort du cadre. Dans l'église, vous dites, fais-la danser. Je dis, Seigneur, je te dis, fais-la danser. Ah bon ? Ok, donc on finit de prier, puis je lui dis, écoute, j'ai une parole pour toi, et je vais t'inviter à danser, pas moi, mais la sœur qui est avec moi, elle va danser avec toi. Ils ont dansé un chant hébreu ensemble, et là, elle a été débloquée de son dos. Alors, il y a une petite explication médicale à cela, mais moi, je trouve que ça fait 2-3 semaines qu'elle était bloquée, elle souffrait énormément. Et elle était là en train de danser dans la salle après. Et même après la fin du culte, elle était encore dehors dans le parking en train de danser, pour vous dire que ça. Je veux dire que Dieu, il faut être attentif à ce que le Seigneur nous dit. Et parfois, on peut être un peu réticent parce que ça sort du cadre. Et le Seigneur nous surprend toujours parce que parfois, ça sort du cadre. Ça sort des habitudes que nous avons. Nous n'avons pas l'habitude de faire comme ci ou comme cela, chez les baptistes, en tout cas, ou ailleurs. Mais il faut arriver à accepter de sortir du cadre. De dire, voilà, de ne pas se laisser enfermer. Et le Saint-Esprit veut déborder du vase que nous sommes. Voyez ? Et donc, nous sommes invités à être remplis constamment, c'était rappelé ce matin, de l'Esprit-Saint pour que nous puissions être débordants. Voilà une grande vision. Mais pour cela, il faut que nous accueillions humblement la présence du Seigneur pour que nous lui laissions la place. Prends la place du roi qui règne sur votre cœur. J'aime bien une pensée de Saint Bernard. Il est nécessaire que l'âme grandisse et s'élargisse pour être capable de Dieu. Or, sa largeur, c'est son amour, comme dit l'apôtre Paul. élargissez-vous dans la charité, rajoute Saint Bernard. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et c'est dans son amour que le Seigneur nous invite à l'accueillir, et c'est par amour pour lui que nous devons lui dire « Merci Seigneur, que ta présence soit venue en nous ». Alors, j'aimerais vous laisser avec une pensée de Thérèse d'Avila, qui dit ceci, « Si j'avais su plus tôt que le Seigneur habite en moi, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. » Parce que ça résonne, cette parole. Si vous aviez su, si vous savez que le Seigneur habite en vous, pourquoi le laisser seul? Au contraire, je pense que nous devons prendre plus de temps à chercher la présence du Seigneur. C'est l'amour. Je veux passer plus de temps avec toi, Seigneur, parce que j'en ai besoin. C'est essentiel, mon essentiel. C'est ma vie, c'est le Christ, c'est l'Esprit Saint, l'Éternel. Alors, en ce temps de Pentecôte, laissons-nous embraser tout à nouveau. C'est un bon défi, ça, hein, au jour de la Pentecôte. Seigneur, embrase ma vie. C'est un autre chant là, qui dit, c'est peut-être dans votre répertoire. Mais embrase ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, être rempli de toi, mouillé de toi, trempé par toi, brûlé pour toi aussi. Embrase ma vie tout à nouveau par ta sainte présence, ayant un zèle renouvelé, parce que c'est l'objectif, c'est là, d'aller annoncer l'amour de Dieu à votre prochain. Et c'est ce qui fera dire aussi à Pierre, quand il arrive à la porte de la ville, il dit, il voit le mendiant, il dit, je n'ai ni argent ni or, moi je n'ai rien. Hein, quand on m'en est souvent confronté, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a? L'amour, la compassion qu'avait Jésus, qui était débordante et qui déborde. Et lorsque je suis rempli de cette compassion-là, alors oui, il y a des miracles qui peuvent se produire. Parce que c'est l'amour du Seigneur qui touche les gens. Et les gens sont touchés par l'amour du Seigneur. Alors puissions-nous entrer dans cette dynamique pour annoncer à ceux qui sont prêts à entendre le message aussi, un message d'espérance pour leur vie aussi. Levons-nous, osons et sortons pour répandre l'amour de Dieu autour de nous, que sa puissance se déverse sur nous et déborde sur ceux qui nous entourent aussi, dans nos familles, dans nos débords. C'est ça l'objectif. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour ça. Pour que nous puissions être des témoins de l'amour du Christ aujourd'hui. Alors nous prions. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin, confrontés peut-être à notre misère, mais toi, tu as eu compassion de nous. Nous te remercions parce qu'en ce jour de Pentecôte, tu nous rappelles que tu es prêt aussi à nous envoyer. Et tu l'as dit au travers Ruth aussi, où tu iras, j'irai. Où tu m'envoies, j'irai. Et Seigneur, ce matin, nous voulons t'accueillir pleinement et dire oui, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux ton Esprit Saint, l'Esprit d'amour et de vérité. Qui est ta personne, que je puisse être un disciple accompli pour toi, que je sois rempli pour toi. Et Seigneur, c'est vrai, parfois nos trahisons, les choses qui te désavouent dans notre existence sont là, mais nous savons que tu es toujours prêt et enclin à nous pardonner pour celui qui a un cœur repentant. Et Seigneur, c'est vrai, mes faiblesses te désavouent, mais toi, tu vas me remplir, tu me remplis tout à nouveau. Alors Seigneur, remplis-nous ce matin de plus de toi. Que nous puissions, Seigneur, aller avec toi, avec la force que tu as. Et la force que tu as, c'est celle de l'Esprit, celle que l'amour que j'ai pour toi, qu'il a pour chacun de nous. Il veut que nous allions ensemble. Alors soyons débordants de lui, qu'il puisse nous répandre. Et Seigneur, que cette joie de ta présence, cette joie de la Pentecôte, puisse aussi être contagieuse autour de nous. Nous t'en prions. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par le Saint-Esprit aussi, nous prions. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Je vais appeler la personne qui s'occupe des annonces. Donc la première annonce, hein, vous avez compris, c'est que pour dimanche prochain, vous avez des devoirs. Et moi aussi. Donc le matin, première chose que je fais en général, c'est que je me jette sur mon téléphone pour savoir si quelqu'un m'a envoyé des messages pendant la nuit, ce qui est rare, mais je vérifie quand même.